Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Parfois, elle installe une ambiance, une atmosphère onirique ou angoissante. Parfois, elle situe l'action dans un pays ou dans une époque, à travers des instruments ou des rythmes qui nous font entrer dans une culture ou un univers. Souvent, elle crève l'écran. Elle devient même indissociable de l'image et participe pleinement du souvenir que nous laisse un film. Au cinéma, la musique est un des éléments de la mise en scène. La bande originale d'un long métrage, un art qui a longtemps été méprisé, a fini par conquérir ses lettres de noblesse. Journaliste, critique et réalisateur, Thierry Jousse nous en offre aujourd'hui un large panorama dans un livre riche en documents d'archives. BO, une histoire illustrée de la musique au cinéma, est une coédition EPA France Musique et vous m'en direz des nouvelles. Thierry Jousse.
Bonjour.
Incroyable à quel point ces quelques notes sont évocatrices, il suffit de les entendre et les images viennent tout de suite. Hein. C'est évidemment la musique de la scène de la douche de Psychose d'Alfred Hitchcock. C'était pour moi une évidence de commencer cette émission par ces notes-là. Toute la force dramatique en fait de la musique de film, on la retrouve ici.
Absolument, oui, c'est une des émissions, une des musiques les plus, je pense, les plus célèbres, hein, au fond de l'histoire du cinéma. Ça doit être dans le top 10, comme on dit, hein. Mais oui, oui, il y a une puissance d'évocation qui est particulièrement forte dans cette musique parce que la musique imite presque, enfin, de façon abstraite, hein, les coups de couteau, en fait, qui sont en train d'être donnés. On va pas révéler la fin pour ceux
non,
qui auraient,
pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film,
il y en a toujours, hein. Il y en a toujours, mais c'est vrai que, oui, oui, ça fait vraiment partie des musiques totalement marquantes et qui évoquent des images dès qu'on l'entend.
Une partition de Bernard Herrmann qui formait, écrivez-vous Thierry Jousse, le couple parfait avec Hitchcock. Ils ont travaillé ensemble sur 4 films, je crois.
Sur, en fait, un petit peu plus de 4, 6 ou 7, ça dépend, parce qu'il y a un film, L'homme qui en savait trop, où on voit Bernard Herrmann diriger la musique d'un autre compositeur dans une fameuse scène, je sais pas si vous vous en souvenez, où il y a un coup de cymbale, bon, il y a tentative d'assassinat, bref.
Oui.
Et donc Herrmann était plus chef d'orchestre, d'ailleurs, c'est une activité qu'il aimait bien, mais c'est les bandes originales les plus célèbres qui ont uni Hitchcock et Bernard Herrmann, c'est surtout Vertigo, La mort aux trousses et Psychose qui se suivent et qui constituent une trilogie de chefs-d'œuvre. C'est vrai que ça a été un couple parfait pendant 10 ans environ. Et puis tout d'un coup, il y a eu la rupture. Et là, ça a été dramatique pour Bernard Herrmann, puisque pour Le Rideau déchiré, donc qui est un des derniers films d'Hitchcock en 66, Herrmann avait composé une musique, mais malheureusement Hitchcock en a interrompu l'enregistrement brutalement, en considérant que c'était plus ce qu'il voulait. Bon, voilà, et ils se sont plus jamais parlé. Bernard Herrmann est parti en Angleterre de la direction d'orchestre, mais encore de la musique de film aussi.
Cette puissance évocatrice qu'on évoquait il y a un instant, Thierry Jousse, est-ce qu'elle est encore plus importante dans un film à suspense ou dans un film d'horreur que dans les autres genres de cinéma ?
Ce qui est sûr, c'est que dans les films à suspense, c'est peut-être encore davantage dans les films d'horreur, la musique est un élément essentiel de la mise en scène. Ça, c'est une certitude. On peut dire qu'il y a des films qui utilisent la musique, mais enfin, ils pourraient s'en passer, ou alors ça, c'est un peu une musique fonctionnelle. Alors que dans le cinéma d'horreur, par exemple, il est évident que là, la musique met en condition le spectateur, sous des formes d'ailleurs assez variées, parce que ça peut être des musiques pour cordes très très dissonantes, qui font peur. Bon, Ennio Morricone, par exemple, en a composé certaines pour des films, par exemple, de Dario Argento, le maître du giallo italien, donc qui est le cinéma d'horreur italien. Mais enfin, on y trouve aussi des musiques parfois très différentes, comme les musiques de John Carpenter pour Halloween et tous ses films, parce que lui, il a la particularité d'être à la fois compositeur et réalisateur, et lui, il a travaillé sur de la musique électronique à l'époque où c'était pas encore à la mode, et sur des formes très très minimales. Donc ça prend des aspects très très différents.
Alors vous le dites dans l'avant-propos du livre, la musique de film a longtemps été méprisée, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé ?
Je ne sais pas exactement, j'ai constaté en tout cas qu'il y avait une évolution. quand on discute, quand il m'est arrivé de discuter avec des, pas récemment parce qu'ils sont morts en général, mais avec des compositeurs, disons, qui avaient commencé au début des années 60. Je prends un exemple, par exemple, Antoine Duhamel, qui avait été travaillé avec Godard, par exemple, sur Pierrot le Fou, notamment, et aussi Ridicule de Patrice Lecomte, donc un des compositeurs français qui a compté dans cette génération. Et lui se plaignait, enfin, rétrospectivement, d'avoir été effectivement méprisé, alors qu'il avait fait les mêmes conservatoires que Pierre Boulez. Il était dans la classe de Pierre Boulez, je crois. Ils avaient suivi tous les deux les cours d'Olivier Messiaen. Et il y avait un mépris du milieu musical à l'époque, qui était dominé effectivement par des tenants de la musique contemporaine pure et dure, envers la musique de film, qui était en général une musique plus facile, plus tonale. Bon, et c'est vrai aussi d'Ennio Morricone, hein, qui le raconte dans le documentaire qui lui a été consacré, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, au début de l'été, hein, Ennio, où il raconte aussi à quel point il avait dû se cacher. C'était clandestin comme activité, que ce soit pour la variété ou pour le cinéma. Et puis au fil du temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, les gens ont pris conscience. Je pense qu'il y a une culture de la musique de film qui s'est constituée au fur et à mesure. Il faut dire que les années 60-70 sont un peu un âge d'or, hein, pour la musique de film. Donc il y a toute une génération de spectateurs, parfois de gens qui sont devenus musiciens eux-mêmes, qui ont revendiqué ces musiques comme étant des musiques à part entière. C'est ça, en fait, la réalité. Puis aujourd'hui, voilà, il y a des ciné-concerts, il se passe beaucoup de choses, effectivement, autour de la musique de film.
Quelques-uns des thèmes composés par Max Steiner, King Kong, Autant n'emporte le vent, Casablanca, Now Voyager, Thierry Jousse. Vous le qualifiez dans le livre d'inventeur, de père fondateur de la musique à Hollywood. En quoi était-il un pionnier ?
Il a été un des premiers à mettre en évidence la musique dans un film. King Kong est considéré comme la première grande musique de film. On est en 1933, le parlant a commencé depuis assez peu de temps. Bon, il y a des comédies musicales qui commencent également, mais il y a aussi la musique de film à part entière. Disons qu'il est pas tout seul, mais il a été celui sans doute qui a défini le plus nettement l'esthétique de la musique de film américaine des années 30-40-50, en tout cas 30-40, ça c'est sûr, qui est à base d'orchestre. Orchestre, hein, essentiellement un langage orchestral. C'est un compositeur qui venait d'Autriche, comme beaucoup de compositeurs de cette génération à Hollywood, c'était des compositeurs venus d'Europe, qui ont un peu importé le langage harmonique et orchestral du post-romantisme, on va dire Mahler, Bruckner.
Donc formé à la musique savante.
Ah totalement, oui, cette génération, de toute façon, il n'y avait pas d'autres, et en plus il fallait savoir maîtriser l'orchestre, donc ça en général, pour ça, il faut l'apprendre au conservatoire. Donc Steiner en faisait absolument partie, comme ses collègues, hein, je pense à Franz Waxman par exemple, ou Dimitri Tiomkin, qui était spécialisé dans le western, qui lui était d'origine russe. Mais c'est aussi quelqu'un, je pense, Mike Steiner, qui a codifié les émotions du spectateur à travers la musique, c'est-à-dire, il a inventé une technique qu'on appelle en général général le Mickey Mousing, c'est-à-dire, alors ça vient du dessin animé, comme
bien
on
sûr.
L'indique, et c'est une façon de faire souligner, vous faites un geste et la musique l'accompagne, voilà, comme dans les dessins animés, et on retrouve ça dans les films des années 30 que Steiner a fait, mais il avait aussi ce langage lyrique, orchestral, qui pouvait aussi convenir à des scènes d'amour, par exemple.
Vous parlez de comédie musicale au détour d'une phrase, Thierry Jousse, est-ce que la comédie musicale sur écran est née à Hollywood ?
Bah oui, enfin il y avait en France et en Allemagne au tout début des années 30 des opérettes. Alors est-ce que c'est de la comédie musicale ? Bon, ça se discute, c'est la spécialité.
Vaste débat.
Mais disons la comédie musicale telle qu'on la connaît, c'est vraiment à Hollywood que ça a été inventé, parce qu'il y avait Broadway déjà, donc les adaptations de comédie musicale qui étaient montées à Broadway qui se sont ensuite, ont été adaptées à Hollywood. Et puis par exemple peut-être la première grande comédie musicale, c'est 42e rue, donc qui a été réalisée en 33. On a vu récemment une version à Paris au Châtelet. J'y suis allé d'ailleurs.
Oui, on en a parlé dans l'émission.
Ah bah, voilà. Donc, c'est une esthétique américaine. D'ailleurs, c'est sur la scène, il n'y avait que des Américains. Hein, parce que ils savent faire, ils ont la technique, ils ont le savoir-faire par rapport à ça. Quoi.
Et les Français qui ont aussi après fait des films musicaux en Europe, je pense à Jacques Demy, à Michel Legrand, ont aussi été inspirés justement par les États-Unis, en particulier Michel Legrand.
Michel Legrand, bien sûr, connaissait parfaitement le jazz sur le bout des doigts, même si lui aussi il avait une formation classique très. Très sophistiqué avec Nadia Boulanger. Et Jacques Demy était un grand amateur des films de Stanley Donen et Jane Kelly. Jane Kelly qui est dans Les Demoiselles de Rochefort, qui aimait aussi les films de Minelli, un Américain à Paris. Donc en effet, ça vient de là. Et en même temps, il y a eu une adaptation, mais il n'y en a pas eu beaucoup malheureusement en France, parce qu'il faut aussi beaucoup de moyens et il faut aussi les danseurs qui, pour les grands numéros de comédie musicale. Et ça, il n'y en a pas forcément beaucoup en France.
Duke Ellington, Miles Davis, Stan Getz, tous les grands jazzmen ont travaillé pour le cinéma. En fait, ce qu'on entend là depuis quelques secondes, c'est à la fois des standards de jazz et des standards de film, des standards de cinéma.
Oui, le jazz est entré, disons, dans la musique de film dans les années 50. Ça a commencé par des mélanges entre orchestre et jazz. Hein. On trouve ça, par exemple, dans Un tramway nommé Désir d'il y a 15 ans avec Marlon Brando. Mais ensuite, il y a eu vraiment... Alors, il y avait eu avant, en fait, des films qui mettaient en scène des jazzmen, mais c'était des films un peu pour la communauté, comme on disait. C'est-à-dire, vous savez, il y avait quand même cette ségrégation qui faisait que les Noirs étaient quand même pas particulièrement bienvenus. En tout cas, c'était pas des vedettes, donc on les retrouvait dans des seconds rôles. Il y avait quelques rares exceptions. Mais à partir du milieu des années 50, le jazz est devenu un peu un langage qui a été assimilé à Hollywood. Puis ensuite, et presque, je dirais, surtout en Europe et notamment en France, puisque vous avez cité Miles Davis, qui est le fleuron. Enfin,
l'ascenseur pour l'échafaud, on a reconnu.
Une musique mythique,
incroyable.
Enregistrée en une nuit, improvisée sur les images par donc Miles Davis de passage à Paris avec un quintet de musiciens parisiens, où il y avait quand même un musicien américain, Kenny Clarke, à la batterie. Mais c'est une musique mythique. Et là, on voit bien la puissance de la musique musique aussi, notamment du jazz. Sur les images, quand vous voyez Jeanne Moreau déambuler dans Paris la nuit, la musique est magique. Enfin, les images restent magiques encore aujourd'hui. Ouais. Et puis voilà, il y a eu Art Blakey, il y a eu plusieurs jazzmen. Puis le premier film de Godard, À bout de souffle, c'était aussi du jazz. Puis ensuite, dans les
Woody
années...
Allen aussi.
Oui, alors Woody Allen, c'est un autre cas de figure, parce que lui, Woody Allen utilise des morceaux préexistants, dans le général, de jazz des années 30-40. Parfois, il va un peu plus loin, mais enfin, c'est assez rare. Il est clarinettiste lui-même. Hein. Il y a eu un documentaire sur une tournée qu'il avait faite. Donc, c'est pas un immense musicien, mais bon, voilà, il a le mérite d'avoir essayé. Et c'est un cas particulier. Disons que le cinéma de Woody Allen est effectivement très identifié à ce son des orchestres de Count Basie, de piano d'Errol Garner, de Duke Ellington. Enfin, bon, il y a la musique de Duke Ellington qu'on a entendue aussi pour Autopsie d'un mort d'Otto Preminger, qui était aussi un. D'ailleurs, Otto Preminger était un pionnier dans l'utilisation des castings entièrement noirs. Il avait fait cette version de Carmen aussi entièrement noire en 54. Donc, le jazz est rentré et il est devenu ensuite un langage qui a finalement été commun à beaucoup de compositeurs qui œuvraient dans les années 60. Michel Legrand l'a dit, Lalo Schifrin, Quincy Jones qui a fait plus de musique de film qu'on ne le croit. Enfin voilà, il y avait du jazz aussi d'une autre façon dans les années 60.
Voilà, continuons avec vous Thierry Jousse d'apprenter l'histoire de la musique au cinéma avec un nom incontournable que vous avez déjà cité d'ailleurs depuis le début de cette émission. Un nom qui fleure bon le soleil d'Italie et du Far West, Ennio Morricone. Les images, là encore, se bousculent. Thierry Jousse, pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, le bon, la brute et le truand, évidemment, ou encore, il était une fois dans l'Ouest. On le reconnaît tout de suite, hein, le style Morricone, dont vous dites tout de suite qu'il incarne pour vous la musique de film. C'est the figure.
Bah, je crois, d'ailleurs, sa mort relativement récente encore, il y a un peu 2 ans et demi, a provoqué beaucoup d'émotions et bien au-delà des amateurs de musique de film, c'est un compositeur qui a une aura, enfin, c'est une star. Hein. En Italie, c'est vraiment... un héros national. Hein. Le documentaire auquel je faisais allusion tout à l'heure, Ennio, qui est sorti en Italie, était un très grand succès, plutôt bien marché en France. Donc là, on dépasse le cadre. C'est-à-dire que là, on est face à un compositeur qui aurait, de toute façon, cinéma ou pas cinéma, sans doute été un des grands compositeurs de la deuxième moitié du XXe siècle. Bon, le cinéma lui a permis finalement de trouver son vrai langage, comme je disais tout à l'heure, de façon presque clandestine par rapport aux autorités auxquelles il était soumis, hein, musicales. Mais on entend, enfin, il suffit d'entendre les extraits que vous avez diffusés pour entendre justement la singularité, l'originalité des sons choisis par Morricone, des guitares électriques saturées, ça se faisait pas beaucoup à l'époque dans la musique de film, des cris de coyote, enfin la musique imitant des cris de coyote, enfin ce genre de choses. Il y a des petits coups de revolver dans la générique de Pour une poignée de dollars, le premier film vraiment digne de ce nom pour lequel a composé Morricone. Donc il avait un langage complètement à lui qui ensuite est devenu... plus tard, dans les années 80, peut-être, et plus après, un langage plus orchestral, plus lyrique, plus traditionnel. Mais dans les années 60-70, c'était une incroyable invention.
Parce que Morricone rime avec Sergio Leone, et évidemment, donc avec le western, donc le western italien, le western spaghetti. Mais Morricone, c'est pas seulement le cinéma italien, quoi. C'est aussi le cinéma français et le cinéma américain. Ça, on le sait moins.
C'est vrai, il a beaucoup travaillé en Italie. y compris dans, avec des réalisateurs très sérieux, type Bertolucci, Marco Bellocchio, enfin bref, tout le cinéma d'auteur Pasolini, tout le cinéma d'auteur italien a aussi, est aussi passé par Morricone, mais de fait, en France, avec Henri Verneuil notamment, Le Clan des Siciliens étant son chef-d'œuvre et sa première vraie BO en France, mais il y a toute une série de BO dans les années 70 avec
Boisset.
Voilà, Yves Boisset, Francis Giraud et d'autres. Et aux États-Unis, ça s'est surtout commencé à la fin des années 70 parce que Morricone ne voyageait pas. Il prenait pas l'avion, il parlait pas anglais. Donc, vous voyez, ça se passait quand même plutôt.
Oui, on se dit que c'est un sacré handicap dans ce métier.
Les gens venaient le voir, les réalisateurs venaient le voir. Hein. Oliver Stone raconte ça, il a travaillé une fois avec lui, il est allé le voir. Bon, c'était vraiment le maestro, quoi. Il a travaillé trois fois avec Brian De Palma. Donc là, oui, il y a eu une carrière énorme. Et curieusement, il n'a eu un Oscar que très, très tardivement pour Les Huit Salopards de Tarantino, qui était un de ses fans les plus transis, hein, les plus fiévreux. Et il avait eu un Oscar d'honneur avant, mais vu la quantité de BO qu'il a composé, on est étonné qu'il n'ait pas obtenu d'Oscar avant. Bon,
comment est-ce qu'ils travaillent justement les compositeurs et les réalisateurs? Est-ce qu'il y a des consignes très strictes qui sont données par les cinéastes? Au contraire, est-ce qu'il y a une liberté totale? Est-ce qu'ils travaillent sur les images, sur les scripts, sur les scénarios? Comment ça se passe? Vous allez me dire, il y a peut-être autant de cas que de compositeurs ou de cinéastes.
Absolument, j'allais vous le dire, c'est très varié. On parlait d'Hitchcock tout à l'heure, lui ne donnait que très très peu d'indications aux compositeurs. Hein, et il le laissait un peu faire, et parfois il y a des compositeurs avant Herbert Herman qui ont été un peu décontenancés par cette méthode. Donc, mais en revanche, d'autres comme Godard demandaient aux compositeurs de composer la musique avant de tournage, et ensuite, ou alors juste après, et il prenait les musiques et il les plaçait lui-même. C'est-à-dire que le compositeur ne participait pas au placement de la musique, alors qu'en général, c'était une chose qui se fait à deux. Non, c'est très très varié, il y a des compositeurs, il y a des réalisateurs très directifs, mais ce qui se passe, c'est que quand une collaboration se poursuit entre un compositeur et un réalisateur, ou compositrice, réalisatrice, peu importe, ils arrivent à trouver leur langage commun, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus besoin de se parler, il y a quelque chose de télépathique presque entre les deux. Si vous prenez, je ne sais pas, un exemple, Tim Burton, Danny Elfman, ou David Cronenberg, ou Warshaw, prendre des couples relativement récents encore, ce sont des gens qui ont travaillé tellement de fois ensemble, qui savent exactement ce que l'un veut et réciproquement.
Avec parfois des hauts et des bas, on a reçu Vladimir Kosma récemment, il nous racontait qu'il y a quelqu'un comme Francis Weber, par exemple, ça a été quand même extrêmement compliqué. Certains réalisateurs, pas seulement Weber d'ailleurs, se méfiant un peu de la musique sur le thème où il faut pas que ça prenne trop de place par rapport au scénario, au dialogue et au personnage.
Bah, Weber, c'est un réalisateur de comédie, enfin d'abord scénariste, mais il était déjà hostile en tant que scénariste, puisqu'il vous a peut-être raconté Vladimir Kosma, qui effectivement, il est déjà le thème du grand bloc une chaussure noire, il n'aimait pas. Donc bon, mais ça n'a pas empêché de faire travailler Vladimir Kosma pas mal de fois. Oui, mais là, c'est des réalisateurs de comédie et ils sont assez stricts parce que le problème de Weber, c'est que c'est d'abord un dialoguiste, enfin, c'est surtout beaucoup un dialoguiste. Donc, la question, c'est comment on fait entendre les dialogues avant tout, mais comment la musique doit exister quand même, mais elle passe en dessous. Donc là, il y a des réalisateurs qui sont pas du tout... D'ailleurs, il y en a qui n'utilisent quasiment pas de musique. Hein, dans un tout autre registre, on peut dire Maurice Pialat, il y a très peu de musique dans ses films. Hein, et c'est pas Romer, il n'y en a quasiment pas. Et pourtant, c'était quelqu'un qui connaissait extrêmement bien la musique, qui connaissait très bien l'œuvre de Beethoven, de Mozart. Bon, donc, c'est varié, mais moi, je pense que Tarantino, sur lequel j'ai dit un tout petit mot, c'est quelqu'un qui adore la musique, puisqu'il en a beaucoup, il a beaucoup utilisé dans ses films, mais il a utilisé une seule fois de la musique originale, donc celle commandée à Morricone. Il était plus à l'aise finalement quand il utilise des musiques qu'il a choisies lui-même, où les compositeurs ne sont pas là pour lui dire ce qu'il faut faire. Et c'est aussi une façon, non pas d'avoir peur de la musique, mais c'est aussi une façon d'avoir peut-être un peu la maîtrise du film. Et, parce que la musique sur une image, ça donne, enfin je veux dire, ça a un effet. Donc parfois, ça effraie, c'est sûr.
M'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors c'est extraordinaire parce que je vous regarde à chaque fois qu'on lance une musique, Thierry Jousse, et à la première ou à la deuxième seconde, ça y est, je vois dans votre œil qui frise que vous avez tout de suite reconnu le film. Ça veut dire que vraiment les images arrivent. Vous parlez sans notes, hein, depuis le début, il faut quand même le préciser qu'à l'érudition, c'est impressionnant.
J'ai travaillé un peu sur ce livre, donc
bande originale, BO, une histoire illustrée de la musique au cinéma, coédition France Musique, EPA. Alors, vous avez donc forcément reconnu Nino Rota, qui a composé entre autres la Strada de Fellini. Rota, c'est la musique du rêve ?
Du cirque aussi, beaucoup, avec Fellini, parce que là, c'est vraiment... Rota, c'est un compositeur à part, enfin à part. C'est-à-dire qu'il a beaucoup travaillé en dehors du cinéma, avant même, d'ailleurs, de faire de la musique de film. C'est d'une génération quand même plus ancienne. Il a écrit, on ne le sait pas beaucoup, mais il a écrit 10 opéras, de la musique de chambre, des symphonies. Enfin, c'est vraiment... C'est le seul compositeur de musique de film très connu qui a vraiment une œuvre en tant que compositeur hors cinéma. Mais avec Fellini, là encore, il a trouvé un peu son alter ego, son double... Et c'est vrai que oui, il y a du rêve, il y a des farandoles, hein, comme à la fin de 8 et demi, par exemple. Il y a des choses très étranges, même parfois le Casanova de Fellini, c'est une musique très étonnante, hein, très moderne à sa façon. Donc c'est un compositeur très doué, mélodiquement parlant déjà, parce que les mélodies, on les reconnaît, on les identifie, et puis qui a vraiment une identité, je trouve, très, très singulière, qui n'appartient vraiment qu'à lui. Il n'y a pas tant de compositeurs dans l'histoire de la musique de film dont on peut dire ça. Enfin, chez qui on peut dire ça, et lui c'est vraiment, vraiment le cas.
Alors votre livre aborde son sujet tantôt du point de vue du cinéaste, par exemple il y a des pages sur Coppola ou Scorsese, tantôt du point de vue du compositeur. Il y a peut-être un film qui sort complètement du lot, c'est l'affaire Thomas Crown, le film de Norman Jewison avec Faye Dunaway et Steve McQueen en 68. C'est un cas à part.
Bah parce que oui, alors Michel Legrand a raconté, je l'ai même interviewé moi-même il y a des années, mais il a raconté parfois, souvent, cette histoire qui est qu'il était à Hollywood depuis pas longtemps, c'était son premier film d'envergure, hein, et il se retrouve dans une salle de montage avec Norman Jewison et son monteur qui était Al Ashby, qui est ensuite devenu réalisateur, devant un montage de 5h30 de film, assez informel, avec beaucoup d'images. Bon, et là, il a eu l'intuition, on peut dire géniale, de proposer au réalisateur, au monteur et au producteur de laisser qu'ils arrêtent le montage pendant 6 semaines environ, et pendant ce temps-là, lui allait composer de la musique de mémoire, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les instruments, enfin, il fallait amener les copies, il fallait avoir un projecteur. Bon, et il lui aura dit, je vais composer de la musique et vous allez monter le film derrière sur la musique. Enfin, en tout cas, voilà, ils vont essayer. Et c'est ce qui s'est passé, il est revenu avec une fontaine de musique, hein, parce que Michel Legrand, c'était un surdoué. Et de fait, la musique va comme un gant avec le film, puisque le montage l'a épousé. La scène, peut-être une des scènes les plus célèbres du film, c'est la scène de partie d'échecs amoureuse, hein, très séductrice entre Faye Dunaway et Steve McQueen. Elle est ponctuée par la musique et on voit bien que la durée de la séquence a été induite par la musique.
Alors il y a beaucoup d'instrumentaux, hein, depuis le début de cette émission, mais il y a aussi dans le cinéma des chansons et certaines ont été tout simplement historiques.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale.
Jeanne Moreau, actrice et chanteuse, avec cette ritournelle de Jules et Jim, le film de Truffaut évidemment. La chanson et la nouvelle vague, c'est aussi un autre couple.
Oui, absolument. Il y a des chansons dans les premiers films de Godard, pas forcément des chansons originales, mais il y a même, voilà, on en voit même Jean Ferrat dans Vivre sa vie. Truffaut a utilisé la chanson à plusieurs reprises.
René aussi.
René ouais. Également. Oui. Donc c'est un. Il y avait un amour de la chanson dans cette génération-là, surtout chez les cinéastes qu'on a cités, qui était très fort. Mais cela dit, la tradition de la chanson de film, qui s'est un peu perdue aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, parce qu'il y a moins cette culture-là, elle existait pendant très très longtemps. Ça fait partie aussi de l'imaginaire du cinéma et de l'imaginaire des spectateurs qui il y a eu des époques où on voyait un film et on allait acheter le 45 tours chez le disquaire, hein. Bon, tout ça c'est une autre époque, maintenant on téléchargerait ou on irait l'écouter en streaming, comme voilà. On dit, mais c'est vrai que bon, aujourd'hui on se méfie un petit peu plus de la mélodie, on se méfie un peu plus de la chanson dans le cinéma, et à part La La Land, des films comme ça, puisque là en effet on est dans les comédie musicale, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu un retrait dans le cas de la Nouvelle Vague, qui est souvent d'ailleurs, on voit aussi qu'à travers le prisme musical, que la Nouvelle Vague c'était un mouvement qu'on a souvent identifié comme très sérieux, comme très... Voilà, il y avait beaucoup de fantaisie en fait dans les films de la Nouvelle Vague, et la chanson en fait partie.
Alors chanson aussi, aussi dans les films de la saga James Bond. Hein, on va pas s'y arrêter parce qu'on a déjà consacré une émission au sujet. On va pas non plus évoquer Michel Magne avec cette formidable fabrique d'expérimentation dans le château d'Hérouville. On a aussi fait une émission là-dessus à l'occasion de la sortie d'un album de BD. Mais je voudrais qu'on dise quelques mots Thierry Jousse d'un autre grand compositeur, Francis Lai, incontournable lui aussi parce que compagnon de toujours de Claude Lelouch, avec entre autres cette mélodie-là, sans doute une des plus célèbres du cinéma français. Un homme et une femme, évidemment. Alors, vous m'avez repris, Antoine, parce que j'ai dit cinéma français, cinéma mondial, hein, l'empreinte, effectivement, de cette chanson.
Cette musique a eu, voilà, l'impact.
Shabada Bada, c'est vraiment extraordinaire. Comment est-ce que vous expliquez, justement, Thierry Jousse, je ne sais pas d'ailleurs si on peut l'expliquer, l'empreinte incroyable de cette mélodie qui a l'air extrêmement simple quand, à l'entendre dans la mémoire collective.
C'est difficile à expliquer parce qu'il y a une alchimie qui s'est produite à la fois entre les images de Lelouch et la musique de Francis Lai. Lelouch étant très versé en musique, hein, de toute façon. Et puis ensuite, chez les spectateurs qui ont retenu cette ritournelle, qui est très accrocheuse en même temps, bon, qui a une forme très séduisante quand même. Mais Francis Lai, c'est un cas intéressant parce que c'est quelqu'un, lui, qui ne vient pas du tout du conservatoire ou de ce genre d'école. C'était un accordéoniste, un mélodiste, un auteur de chansons, essentiellement, à la base. Et c'est comme ça qu'il a été recruté par Lelouch via Pierre Barou, qui travaillait également avec Lelouch à cette époque, et qui les a fait se rencontrer. Et puis, il cherchait sa musique, Lelouch, il cherchait son cinéma. Il avait déjà fait 2-3 films avant Une femme. Et finalement, c'est avec Francis Lai qu'il s'est trouvé, quoi. Et ils se sont trouvés mutuellement.
50 ans hein, de travail ensemble, un petit peu plus. Hein,
oui, c'est pratiquement, je crois qu'ils ont fait 35 films ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est la plus importante de toutes les collaborations de l'histoire du cinéma mondial. Hein. Il n'y a pas eu de couple aussi fécond et aussi prolifique que celui qui a formé.
Alors vous en évoquez quelques autres, hein. Par exemple Philippe Sard et Claude Sauté en France, aux États-Unis Henri Mancini et Blake Edwards. Il y a vraiment de très très longs compagnonnages qu'on a presque l'impression que le compositeur et le cinéaste construisent ensemble une œuvre, un engagement très très fort.
Oui, dans certains cas, on pourrait dire que le compositeur est presque le co-auteur du film, hein, tellement la musique joue son rôle, a son importance. C'est-à-dire que quand un réalisateur a trouvé son compositeur, il ne lâche plus. Et en général, le compositeur est content parce que ça lui fait du boulot. Et puis bon, il y a un plaisir, évidemment, c'est pas seulement un problème d'argent, c'est aussi un problème c'est aussi une question d'atomes crochus, de trouver quelqu'un qui vous fait confiance, qui vous amène à vous dépasser aussi musicalement parlant. C'est ça qui est intéressant dans la musique de film, entre autres. C'est un art de la contrainte, parce qu'être composé pour le cinéma, ça suppose quand même d'être assez souple, hein, dans sa manière de composer par rapport à l'image. Mais en même temps, cette contrainte stimule l'imagination. Et quand vous avez effectivement un cinéaste qui vous accompagne comme ça au fil des années, ou vous accompagne au fil des années, ben, l'imagination, elle est encore plus stimulée, et souvent ça donne des résultats assez merveilleux.
Ouais, on aurait pu parler aussi de Luc Besson et d'Éric Serra.
Dans un autre style, oui, absolument.
Voilà, mais venons-en à Easy Rider. Alors là, c'est un film charnière, c'est l'expression que vous employez. Thierry Jousse en est en 69, et c'est cette musique qui accompagne la chevauchée fantastique de Dennis Hopper, Peter Fonda et Jack Nicholson sur leur moto, un western moderne. Explode into space like a true nature's child. Alors j'ai fait le test il y a quelques jours, Thierry Jousse, je suis allé voir une jeune fille, elle n'avait pas vu Easy Rider, j'ai fait écouter cette musique-là et elle m'a dit tout de suite, États-Unis, moto, route, grands espaces américains, c'est incroyable.
Bah, comme quoi, ça,
vous voyez,
comme quoi la musique
c'est
au cinéma,
incroyable, quoi.
C'est pas un vain mot, en effet. Bah oui, oui, sans doute que c'est là où on voit le jeu, que le choix a été extrêmement pertinent. C'est une musique, alors pour ceux qui ont vu Easy Rider, en tout cas, c'est associé à ce film, indéniablement.
Pourquoi film charnière?
Ah, parce que c'est un film qui est à la fois incarne les débuts de ce qu'on a appelé ensuite le nouvel Hollywood, c'est-à-dire un cinéma d'auteur au fond plus indépendant que le Hollywood traditionnel où en gros c'est où sont les auteurs qui ont le pouvoir d'une certaine manière. Et ce film a été un succès complètement inattendu, hein. Ça a été tourné dans des conditions assez abracadabrantes, avec sans doute pas mal de drogue qui circulait sur le plateau, un tournage très atypique pour l'époque. On était très loin des canons hollywoodiens et c'est devenu un énorme succès complètement surprenant. Et c'est aussi un film qui incarne d'une certaine manière l'ambiance psychédélique, la fin d'ailleurs de l'ambiance psychédélique, presque on pourrait dire, parce que le film est assez pessimiste en réalité, si on s'en souvient. Et c'est aussi un film qui est un des premiers, c'est pas tout à fait le premier, mais c'est un des premiers, on peut citer par exemple le Lauréat juste avant de Mike Nichols, où on utilise des morceaux de rock, des morceaux de pop comme bande-son du film. Et ça marche évidemment parfaitement.
Alors, le rock, un peu plus tard, l'électro. Le cinéma a toujours été à la page, musicalement parlant, c'est-à-dire qu'il se nourrit en permanence des nouveaux sons.
Oui, le cinéma épouse les modes, même, on peut dire, pour le meilleur et pour le pire, mais enfin, souvent pour le meilleur malgré tout. Finalement, le jazz, on parlait tout à l'heure du jazz, était une musique à la mode, hein, dans les années 50, c'était une musique branchée, on pourrait dire. Donc oui, le jazz est arrivé, la pop est arrivée, l'électronique est arrivée. C'est un mouvement naturel du cinéma qui s'imprègne, oui, de l'ère du temps, qui a besoin de nourrir des formes nouvelles à travers notamment la musique. Et oui, c'est toujours été comme ça d'une certaine manière, même si coexiste dans la même époque évidemment des choses très traditionnelles, puisque quand John Williams revient pas, parce qu'il avait déjà 15 ans de carrière avant lui, enfin quand il fait irruption réellement de manière populaire avec Star Wars, on n'attendait pas particulièrement que la musique symphonique revienne, et pourtant ça a été le cas.
Alors Star Wars, justement, on va en écouter quelques notes tout de suite avec John Williams et évidemment tout de suite sur RFI. Donc Star Wars signé John Williams, et puis voici quelques-uns des plus grands succès du tandem John Williams-Steven Spielberg.
Thank you.
Quelques-uns des plus grands succès de ce tandem Spielberg-Williams, Les Dents de la Mer, Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, E.T., La Liste de Schindler, Jurassic Park, on aurait pu citer aussi Minority Report. Quelle est la recette du succès de ce tandem-là? C'est quand même incroyable, quoi, cette liste incroyable de films historiques du cinéma américain.
Oui, alors c'est d'abord le savoir-faire et l'intuition, peut-être aussi de Spielberg, de ce qui va marcher, parce que c'est toujours la même chose, hein, quand un film a du succès, comme Les Dents de la Mer, c'est pas prévu au programme, hein, c'est rien. Enfin, il y a des films programmés pour le succès, mais souvent, c'est des films qui ont eu un succès presque par hasard.
Mais il y a une patte John Williams?
Oui, alors ce qui est marrant avec John Williams, c'est que si on écoutait des choses qu'il a fait, parce qu'avant d'être, avant de travailler avec Spielberg, il avait déjà presque 20 ans de carrière, parce qu'il était d'abord pianiste de jazz, John Williams, ensuite il est devenu un musicien de film, ami d'ailleurs avec Bernard Herrmann et d'autres, mais dont le style n'était pas encore celui qu'on connaît. Dans les années 70, il fait des choses très variées. Et puis, tout d'un coup, il y a cette rencontre avec Spielberg. D'ailleurs, pour le film qui précède Les Dents de la Mer, qui s'appelle Sugarland Express, qui n'est pas très connu. Et puis, cette fusion qui se produit, effectivement, avec cette musique très, très simple, au fond, presque minimale, un peu proche de, moi, je trouve, du Sacre du Printemps de Stravinsky, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a d'ailleurs une énorme culture classique, John Williams. Et ensuite, ça s'est renouvelé à chaque film, parce que John Williams ne refait pas la même chose à chaque film. Il s'adapte. C'est aussi quelqu'un qui a une grande compréhension du cinéma. Dans E.T., c'est totalement différent. La Liste de Schindler, dont on a entendu le thème vraiment très, très émouvant, très beau, c'est encore autre chose. D'ailleurs, c'est un film que John Williams n'a failli ne pas faire parce qu'il était trop ému par le film. Il avait du mal à penser qu'il pouvait faire la musique de ce film. Et en réalité, il a produit un de ses plus beaux thèmes. Je sais pas, il n'y a pas de recette.
Mais il n'y a pas une écriture musicale pour blockbusters?
Il y a des musiques assez héroïques, ça change selon les époques, parce que les blockbusters des années 80 ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, c'est Hans Zimmer qui est dominant dans ce type de film. Et si vous écoutez les musiques de, par exemple, de Dune ou ce genre de film, c'est pas du tout la même chose. C'est des nappes, c'est très électronique, c'est très différent. Donc ça a changé, l'esthétique change aussi en fonction des désirs des producteurs, des réalisateurs. Mais bon, John Williams, c'est vraiment un des plus grands. Et là, on va l'entendre à nouveau bientôt avec le dernier Spielberg qui sort dans quelques semaines.
Alors, Williams, compositeur très, très expressif, très, très lyrique, mais il y a aussi des compositeurs comme Philip Glass, minimaliste. Alors, eux sont presque des extraterrestres dans la galaxie de la musique de film, Thierry Jousse.
Ils sont à part. Il y a aussi, on peut citer Michael Nyman, dont la méo la plus connue est celle du piano, mais a beaucoup travaillé aussi avec Peter Greenaway. C'est pas le langage, disons, traditionnel quand on pense à musique de film, on pense pas. Mais en même temps, ce langage répétitif, c'est un langage qui s'intègre très très bien avec le cinéma, parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe au niveau des rythmes, et donc ça marche extrêmement bien, ça marche encore mieux sur des films qui ont très peu de dialogue. Il a travaillé sur un film que le grand public ne connaît pas aujourd'hui, qui s'appelait Koyaanisqatsi, qui est une espèce de documentaire écologique qui avait eu un certain succès à l'époque, produit plus ou moins par Coppola, qui a été son entrée en matière dans le cinéma, Philip Glass, et c'était un film où il n'y avait pas de dialogue. Et donc là, il y avait la musique qui était, vous embarquait dans un truc planant, quoi.
Le numérique, Thierry Jousse, c'est aussi une révolution pour le cinéma?
Technique,
musicalement parlant, bien sûr.
Musicalement, oui, parce que, pour toute la musique, on peut dire, mais parce que ça induit des outils différents, ça induit des sons différents. L'électronique dont on parlait, qui est devenue le numérique, permet d'avoir une palette de sons absolument considérable. Tous les compositeurs aujourd'hui utilisent de près ou loin le numérique. Ça a aussi changé la manière de la relation entre le réalisateur et le compositeur, parce que aujourd'hui, vous composez une musique, vous la mettez sur un WeTransfer, et puis vous l'envoyez à la salle de montage, le monteur et le réalisateur l'écoutent tout de suite, ils la placent, ils ne sont pas très contents, ils rappellent... Enfin bref, vous voyez, il y a un circuit très rapide, alors qu'avant, c'était... Il fallait faire confiance au compositeur, il vous jouait au piano le thème et rendez-vous à l'enregistrement 6 semaines plus tard. Et il y avait parfois des malentendus et des mauvaises surprises.
Bon, le numérique et l'électro, on parlait tout à l'heure de musique savante, on parlait de rock, et le rap, Thierry
Jousse. J'en ai pas parlé dans le...
Parce que c'est l'un des grands absents,
Il manque des choses. chose. Il n'y a pas non plus ce qu'on a appelé la blaxploitation. La soul music n'y est pas. Il y a quelques compositeurs français plus anciens qui manquent aussi. Le rap, il y a des films, il y a des biopics, par exemple, il y a des biopics d'Eminem, enfin, réalisés par lui-même. Il y a du rap, il y a des films de Spike Lee, il y a des choses comme ça. Je ne sais pas si ça a vraiment. Je ne sais pas s'il y a vraiment un cinéma rap, mais peut-être que s'il y a une réédition de ce livre un jour, il faudra intégrer le rap, parce que à terme, de toute façon, c'est quand même une forme musicale qui a quand même à voir avec le cinéma.
Acceptons-en l'augure. À la fin du livre, Thierry Jouze, vous posez la question, où sont les femmes? Est-ce que vous les avez trouvées?
Il y en a quelques-unes. Hein. On n'en trouve pas énormément dans l'histoire de la musique de film. Enfin, à partir des années 90, il y en a quand même de plus en plus. Et ces dernières années, ça commence à venir. Il y a eu quand même 3 femmes qui ont eu un Oscar. C'est peu, mais enfin bon, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que en France, on est entre 6 et 8% là, à peu près en pourcentage de femmes qui écrivent de la musique de film, ce qui est très très peu. Mais je suis assez confiant pour l'avenir, d'abord parce que les choses bougent, et puis parce qu'il y a pas mal de jeunes compositrices qui débarquent, soit des conservatoires, soit d'autres, parce que ça débarque un peu de partout hein, dans la musique de film. Et je pense que si on en reparlait dans 20 ans, on serait vraiment sur un pourcentage qui serait sûrement très très différent.
Alors on va terminer Thierry Jouze avec la musique de Shigeru Umibayashi pour In the Mood for Love, le film de Wong Kar-wai. D'abord parce qu'on n'a pas parlé de cinéma asiatique depuis le début de cette émission, et ensuite parce que c'est une de mes BO préférées. Voilà, je crois.
Bonne raison.
Complètement égoïste. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots justement de cette musique?
Alors il y a plusieurs musiques dans In the Mood for Love, parce que vous avez à la fois les chansons en espagnol de Nat King Cole, des vieux airs des années 50, et puis il y a cette musique qu'il a d'ailleurs emprunté à un film japonais des années 80, mais que personne n'avait vu et qui est devenu le leitmotiv de ce film et que personne n'a oublié.
Voilà, et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une des musiques les plus marquantes du cinéma. D'ailleurs, ça m'a donné envie, là, en préparant l'émission, de revoir
un cinéma très musical, de toute façon, très très bercé dans la musique.
Merci beaucoup Thierry Jouze, BO.
Merci à vous.
Une histoire illustrée de la musique au cinéma. C'est une coédition EPA France Musique, et donc on attend la nouvelle édition augmentée cette fois-ci, notamment avec une place pour le rap. On se termine donc avec Wong Kar-wai. Merci. Le journal sur RFI, après la musique et le cinéma, la bande dessinée sera à l'honneur de VMDN demain à l'occasion du 50e festival d'Angoulême. Nous y serons donc demain pour une émission avec notamment la scénariste ivoirienne Marguerite Aboué, vous savez, la créatrice d'Aya de Yopougon. Dans un instant, donc le journal à demain et vous m'en direz des nouvelles.